des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune, 93.1 FM. Vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Je suis heureuse de poursuivre ma conversation avec Daphne Bicic, artiste, peintre, écrivaine, peut-être surtout poète, qui sait écrire le monde avec couleur et matière, qui sait le peindre et dépeindre avec ses mots. Écrire et dessiner sont identiques en leur fond, disait Paul Klee. Dans notre premier entretien, nous avons parlé de son désir d'ailleurs, de son regard qui s'est construit aussi en voyage, parlé de sa peinture, de sa merveilleuse ouverture au monde. Nous avons lu de ces textes. L'entretien peut être écouté ou réécouté sur le podcast de l'émission. Cette nouvelle conversation nous amènera dans d'autres pays, avec lesquels elle a un lien particulier, poussera les portes des maisons d'édition avec lesquelles elle travaille depuis de nombreuses années. Elle portera sur ses collaborations avec des écrivains et poètes, avec d'autres artistes qui génèrent des rencontres et des beaux projets de publication ou d'exposition. Bonjour Daphné.
Bonjour Fabiola.
À Ségou, au Mali, à l'espace Bajdala, tu fais plusieurs résidences. Tu es la seule artiste occidentale du répertoire des artistes du Mali. Mais tu crées aussi un fonds de poésie et d'art. Comment as-tu constitué ce fonds? J'aimerais déjà savoir. Et comment elle est venue cette idée? Et puis, je disais en parlant de ce qui nous saisit lorsqu'on te découvre, l'ouverture au monde, auquel je rajoute créer des liens. Tu es française, européenne, tu crées des liens ici, mais aussi en Afrique, en Géorgie, en Azerbaïdjan, au Japon. Tu les crées et tu les gardes. Pourtant, les cultures sont différentes, les codes sont différents, l'art est perçu différemment. Qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas? Et d'abord, peut-être, au Mali, à Ségou, comment as-tu constitué ce fonds? Et comment elle est venue l'idée
L'idée est partie en fait d'une installation qu'on avait faite à Boulevard au Bénin, à Cotonou. Je crois que c'était sur la pollution, et c'était très difficile de ne pas être dans le thème, parce qu'on était à Place de l'Étoile Rouge là, et on était en pleine pollution. Et j'avais fait une installation comme une banderole, tu sais, les banderoles qu'ils utilisent pour annoncer les enterrements et tout. Donc j'avais trouvé un bout de bois comme ça, et j'avais fait des photocopies de textes de Chen Zhen et de Barthes, il me semble, de Roland Barthes, parlant de la pollution intérieure, humaine, etc., etc. Et c'était accroché, donc, comme une banderole de la première poubelle qui avait été placée sur cette place jusqu'au plan de la ville. Plusieurs jours de suite, j'ai vu un jeune garçon qui recopiait tous ces textes avec une très belle écriture. Et j'avais malheureusement pas le livre. Puis au bout de 2-3 jours, parce qu'il venait vraiment tous les jours, tous les soirs, comme après l'école, et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit « je recopie parce que je veux étudier ça, et c'est très beau, et ça me parle ». Ça m'a vraiment émue, et du coup j'ai pris les photocopies, et je lui ai donné. Et là j'ai eu l'impression que je lui donnais le monde. C'était vraiment... Et j'ai réalisé en fait qu'il n'y avait pas de livre. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, il faut que j'amène des livres. Ça ne suffit pas d'écrire en Afrique, il faut que j'amène des livres. Mais comment constituer ce fonds? Comment faire une bibliothèque? Ça a pris quelques années. Le fonds s'est constitué très simplement. C'est que j'ai fait appel à des maisons d'édition et à des amis, dont Jean-Pierre Desnaux, dont plein d'amis écrivains et artistes. Parce qu'en fait, je voulais que ce soit des vrais dons. Qu'on me donne vraiment un livre auquel on tenait. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui m'ont appelé pour faire débarrasser leur grenier, etc. J'ai dit non, je ne veux pas. On se débarrasse déjà de pas mal de choses en Afrique, ça va. Un livre, ce n'est pas une bagnole, quoi. Enfin, on n'amène pas. Et je veux vraiment, si vous donnez, vous donnez. Enfin, comme de Koenig. Vous donnez quelque chose qui va vous manquer. Donc, j'ai eu vraiment des livres intéressants auxquels les gens tenaient. Et puis, bah, j'ai eu énormément de livres, donc je partais toute seule. J'avais 3 valises, j'en avais plein mes poches, parce que je voulais même bien peser dans l'avion. J'en avais partout. Et puis, c'est surtout comment trouver le lieu. Au départ, c'était parti sur le Bénin. Et puis, ça ne s'est pas fait au Bénin. C'était compliqué, les bibliothèques. Il fallait rentrer dans toute une institution, et je voulais faire ça seule, en fait. Sans subvention, sans rien. Et donc, au Mali, je crois que c'est par la personne qui tenait ce centre, Badjidala.
Michel
Fleury. Je crois que c'est lui, ou alors peut-être par Joël Bastard, qui avait une bibliothèque déjà de lecture publique, à ses goûts, et qui était constituée, et qui m'a plutôt suggéré de créer un fonds, parce que je ne peux pas faire une bibliothèque si je ne suis pas sur place, les livres. Et je suis arrivée dans cette bibliothèque, mais je suis tombée complètement amoureuse de cette bibliothèque, elle était magnifique. Et Pierre Giray était le bibliothécaire et il s'en occupait tellement bien. Il faisait tellement lire autant les enfants que les adultes. En même temps, il jouait au foot avec eux. Enfin, il y avait vraiment un lien. Je me suis dit, ce fonds va vraiment vivre. Oui, il y avait déjà une bonne bibliothèque quand même, assez belle. Et puis, ça m'a fait découvrir parce que tout ce que j'ai amené là-bas, je l'ai lu. Et il y avait beaucoup aussi de littérature africaine parce qu'il y a beaucoup d'écrivains africains, mais il n'y a pas les livres là-bas. Ils sont pas, enfin, personne n'amène les livres là-bas, comme les films qu'on tourne là-bas, ils les voient pas. Donc tout ça, c'était il y a quand même une quinzaine d'années, ça a tourné dans ma tête. Et toute cette littérature africaine était extrêmement intéressante et m'a appris aussi à lire le pays, en fait, à travers un livre. T'as même plus besoin de voyager, mais enfin de lire ça sur place. Et puis tout ce que j'ai amené, j'ai dû le lire parce qu'il n'est pas question d'amener des trucs où il peut y avoir un passage un peu louche, un peu. Ou quoi, les mères, enfin tout le monde surveille quoi, ce qu'ils lisent. Donc tout ça, c'était très très riche. Et beaucoup de rencontres d'écrivains, du coup, beaucoup de rencontres de poètes. On a fait des projections aussi, parce que je suis allée quand même 5 fois de suite.
Toujours à Ségou.
Oui, bah oui, travailler dans la bibliothèque. Et c'était y a des endroits où ils disent que j'étais la deuxième bibliothécaire, donc j'étais assez fière. Et puis on faisait un travail, donc on a amené des films aussi. Bah, j'ai amené aussi des films de. Kentridge. On a amené plein de choses et on travaillait vraiment ensemble et c'était, enfin, moi j'ai appris énormément. J'espère que les gens là-bas et que les enfants ont appris là-bas, mais moi
ça
j'ai...
Ça se poursuit
Bah, malheureusement, Pierre Giray est décédé et je n'ai absolument plus aucune idée, puis maintenant c'est goût, il est devenu un peu... Je sais pas, je me dis qu'ils vont me trouver puis qu'ils vont brûler mes livres, je sais pas. C'est un peu devenu très dangereux toute cette zone-là aussi et j'ai aucune nouvelle de cette bibliothèque. Une très très belle expérience et oui, bah, j'ai beaucoup appris.
C'est une très belle petite ville au bord
du fleuve. C'est magnifique. Après, pour le guide, oui, ils m'ont fait la surprise, c'est le guide des artistes plasticiens du Mali qui a été publié par l'association Acte 7, qui est une association culturelle créée par Adama Traoré, qui fait beaucoup de théâtre aussi, qui fait énormément de choses là-bas, qui est très intéressant, c'était une bonne rencontre aussi. Et les textes sont d'Ismaël Samba Traoré, que j'avais lu aussi, enfin pas ces textes-là, mais j'ai lu ses livres. On a fait quelques interviews et ça m'a beaucoup appris aussi à connaître le Mali. Parce que c'est quelqu'un de très engagé, qui a beaucoup travaillé aussi avec cette grande dame de Bamako.
Aminata
Traoré, que j'ai rencontré aussi là-bas. Enfin, ça a été tout un ensemble. Je trouvais que j'étais plus, pas politisée, mais quand même plus proche du pays qu'au Bénin. Au Bénin, je suis peintre, je fais les expos avec les artistes, on échange, mais je rentre pas tellement dans... Tandis qu'au Mali, je suis vraiment rentrée dans leur combat. Il y avait un sacré combat, et ils se battent tout le temps d'ailleurs. Et avec ces artistes, avec ces écrivains, dont Ousmane Diarra, enfin j'en parlerai plus tard. Et donc ils m'ont fait la surprise de me mettre dans ce beau guide. Un jour j'ai reçu le guide et j'étais dedans, j'étais vachement fière, j'étais très contente. Voilà.
Concernant tes liens en Afrique, en Géorgie, Azerbaïdjan, Japon, tu les crées, tu les gardes?
Oui, ben oui, parce que ce sont des échanges, ce sont des amitiés, ben comme avec Nina et des tas d'autres peintres. On peint dehors, on est tous un peu perdus, on est là. Enfin moi là, oui, maintenant ça y est, j'ai beaucoup appris en Afrique justement, mais t'as des tas d'artistes qui arrivent et qui ont jamais peint dans la rue. De quitter ton atelier, d'être dans la rue dans un pays étranger, c'est pas évident. Donc
mais oui, c'est ce que je me dis, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à le faire dans la rue, et c'est pas tout le monde qui qui continue. Enfin, ouais. Qui...
Mais je crois que j'ai été formée à Cotonou quand on te met dans la rue, que tous ils bossent comme des... Tu les regardes, tu dis, bon, il faut que je fasse quelque chose, je ne veux pas rester à faire mes petites peintures. Donc, t'y vas. Et donc, il y a une certaine expérience, puis il y a une bonne ambiance. On est tous... on passe quand même des fois 10 jours, 15 jours ensemble à bosser. Donc, il y a beaucoup d'échanges, c'est très riche. Et ces amitiés, elles restent, oui. Bah, il y a eu aussi Jesper Boysen, là, avec qui j'ai exposé dernièrement. Non, il y a eu beaucoup d'artistes comme ça.
Il y avait le photographe aussi. Le photographe, il est français, mais il vit en Côte d'Ivoire, il me semble.
François-Xavier Bray.
François-Xavier Bray, oui.
Et lui, c'était au Bénin. Oui, c'était au Bénin qu'on s'est rencontrés. Et on est partis au Japon ensemble, d'ailleurs. On a fait une autre résidence ensemble.
Chez Zonzakai, que tu avais rencontré aussi au Bénin.
C'est pas chez Zonzakai.
Enfin, c'est pas chez, mais...
Mais j'ai invité Zonzakai. Voilà. J'invite un Japonais à exposer dans son pays. Mais Zonzakai, il a créé, un lieu, maintenant, un centre d'art, dans lequel j'adorerais aller. C'est en projet.
Il est où, ce centre?
Il est pas très loin de Fukushima, je crois. Voilà, les liens avec la Géorgie. Ben, la Géorgie, je suis partie avec Sergio Zanku, donc on parlera tout à l'heure. Azerbaïdjan, ils m'ont invité plusieurs fois. Mais je me rends compte que c'est tous des pays où je ne peux plus tellement retourner, quoi. C'est un petit peu bizarre. C'est un peu triste. Mais heureusement, j'ai eu la chance d'y aller
avant. T'as été aussi en Afrique du Sud?
Oui, en Afrique du Sud, où il y a une petite exposition aussi, assez intéressante. Et
en Allemagne?
Allemagne, il y a eu pas mal d'expositions, oui. Ça, c'est par une amie, puis après des rencontres, oui, à Hambourg, oui.
Et le lien avec les Pays-Bas, la Hollande, non?
Pays-Bas, j'ai exposé au Stedelijk une exposition de groupe quand j'étais jeune, enfin quand j'étais là-bas.
Oui, mais je veux dire, depuis ton départ,
non. Pas vraiment. Bah, y a eu une rupture amoureuse, on va dire. Donc, en général, moi, je quitte.
Tu quittes tout derrière.
Ce qui est un peu difficile. Je repars à zéro. Et, ce qui fait que j'ai quitté pas mal de régions, je vais pas dire de cœur. De cœur, je quitte pas, mais je peux pas rester dans un endroit où.
Où tu as aimé.
Voilà, où j'ai aimé.
Je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce souvenir de soi, qui se souvient de nous. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois, j'ai voulu comme un fou, me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou. Me souvenir de nous, quand on se disait vous, si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce sourire de soi, qui sourit comme nous, sourions autrefois, quand on se disait vous, en regardant le soir. Tomber sur nos genoux, c'est qu'encore une fois, j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce soupir de soi qui soupire après nous. Ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. C'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts qui se nouent, l'empreinte de ce jour où les doigts se dénouent. Si je porte à mon cou en souvenir de toi, cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. ce n'est pas qu'il fasse froid. Le fond de l'air est doux.
À partir de 1998, tu fais des séjours donc réguliers et irréguliers au Bénin, à Cotonou. Plus tard, tu participes à la Biennale des Arts, regardbénin.1, et exposes ton travail dans une imprimerie désaffectée à Porto Novo, qui est la capitale. On va parler avec la question suivante de ce travail en particulier, mais j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que le Bénin pour toi et si ton travail, à plusieurs reprises là-bas, a changé quelque chose dans ton regard, s'il a apporté ou enlevé quelque chose hein.
Oui, très certainement. Ça m'a poussée en fait à une certaine expression plus brute, plus directe. Travailler sans pinceau, comme je disais tout à l'heure, avec les mains, au sol, avec des pigments qui sèchent au soleil, utiliser des bouts de bois, utiliser tout ce que tu trouves de la terre et travailler avec les artistes africains aussi, qui ont une énergie assez incroyable. Il n'y a jamais rien qui les arrête. On bosse, on travaille. C'est pas davail, mais c'est pareil. Et travailler dans la rue, ça provoque en même temps une certaine tension et surtout d'autres relations, ce que j'appellerais relations peinture-corps. C'est vraiment tout ton corps qui est entraîné, qui est dans la ville, hein, qui est, enfin, quand on peint dans la ville.
Et puis il fait chaud.
Il fait très chaud, oui, mais ça, moi, je suis un lézard, donc ça me dérange pas du tout. Et aussi une autre réalité manuelle de la peinture. En fait, c'est vraiment une... Tu sens, je sais pas, j'ai plus senti la peinture là-bas. Ben on est à terre, on est par terre, on est, enfin on était parce que je crois que maintenant ils travaillent dans des conditions peut-être plus. Enfin il y a des galeries maintenant à Cotonou. Il y avait pas tout ça du tout à l'époque.
Il y a des centres, oui.
Il y a des centres d'art. Et c'est là, je pense, où s'est créée la vraie séparation entre mes mains et l'œil dont je parlais tout à l'heure, où c'est plus. Je cherchais plus à savoir ce que je faisais. Je faisais, j'étais là, il faut faire. Un point, c'est tout. Et puis, quand t'as tous les enfants qui sont autour de toi, qui te demandent ce que tu fais, tu réponds vaguement. Et les bonnes dames aussi, qui s'arrêtent, qui s'assoient sur leur petit tabouret, qui arrêtent de vendre leur arachide et qui te regardent. C'est hyper impressionnant.
C'est plus la solitude de l'atelier parisien.
Oui, là, tu es complètement dans la foule et puis qui te regardent et qui te demandent ce que tu fais, quoi. Et du coup, tu poses tout le temps la question dans la vie, mais devant une toile. Mais là, de devoir répondre directement, oui, ça devient une danse, un théâtre, enfin, une espèce d'interaction de la rue qui est très belle et qui change vraiment le travail.
C'est presque une performance.
Oui. Et c'est complètement une autre approche. Et je dirais ben, aussi à l'expressionnisme et à l'arte povera aussi, le côté... je demandais souvent aux enfants de chanter hein, pour me mettre, et je faisais oui, une performance, et là je balançais la peinture et j'avais un plaisir fou quoi. Et je me dis là, t'es pas venu là pour peindre comme tu peins à l'atelier. C'est pour ça que là j'utilise des pigments, tu échanges aussi avec les autres artistes, c'est beaucoup plus intéressant. De toute façon, tu peux pas peindre à l'huile en Afrique, parce que tu ramènes tout ça et ça met, c'est tellement long à sécher l'huile, et puis avec le soleil ça va pas du tout non plus. Puis c'est pas les couleurs, hein. Et là-bas c'est beaucoup plus la terre, enfin il y a un côté beaucoup plus, oui, terre. Donc j'ai eu l'impression que je m'enfonçais dans la terre. Là, d'un seul coup, j'avais un rapport avec la terre, qui pour moi est terre-Afrique, quoi. Enfin, et puis tous ces échanges très très riches avec les autres artistes, cette simplicité, cette générosité drôlement belle, quoi, drôlement intéressante. Après, sur le travail à Porto Novo, on était plusieurs artistes à tenter de redonner vie à cette ancienne imprimerie nationale de Porto Novo, qui est un espace absolument magnifique.
Tu as été invitée par Stéphane Keller et Georges Adagbo.
Oui, c'était la Biennale Regard
Bénin.
Oui. Et cette imprimerie était quelque chose de très important pour les gens, pour les habitants, puisqu'elle publiait des journaux locaux avant. Et là, elle était complètement à l'arrêt. Donc, il y avait un côté très théâtre aussi, parce qu'il y avait toutes les machines. Il y avait l'atelier de typographie, les cases, les lettres en bois, les rotatives de presse. Enfin, un lieu magnifique. D'ailleurs, François-Xavier Guebray a fait un travail, parce que lui est venu avant. Il a pris des photos avec la poussière. Enfin, c'était d'un romantisme. Mais c'est comme un théâtre à l'arrêt. Et du coup, on a tous tenté comme de refaire vivre et refaire marcher ces rotatives, enfin cette imprimerie. Je pense que les habitants y étaient assez sensibles, et c'était, pour moi, c'était une très très belle exposition aussi, ben, invitée par Georges Adéagbo, que j'avais rencontré lors de mon premier séjour au Bénin, qui était l'essentiel de mon voyage, d'ailleurs, puisque j'avais passé 3 mois et Georges Agbo n'était pas aussi connu, il faisait son art dans sa concession. Il m'a aidé à comprendre les installations, parce que j'avoue, je ne comprenais pas ça du tout il y a une vingtaine d'années. J'en avais vu Amsterdam, tout ça, mais je n'arrivais pas du tout, je n'adhérais pas. Et quand j'ai vu son travail, là, j'ai pris une claque magnifique. C'est aussi l'essentiel des voyages, c'est quand ça bouleverse tout, comme je dis, que ça désarticule tout dans ta tête et ça te... Tu rentres, tu sais plus où t'es. C'est absolument parfait. Et donc,
mais ces installations, effectivement, ça te désarticule complètement. Ça te oblige à te reformuler presque.
Complètement, oui, oui.
Surtout la peinture à l'huile, mais au Mali tu utilises des pigments naturels, des écorces. À Cotonou tu enregistres les matins, les bruits de la rue. Dans tes assemblages, des pièces culturelles du Bénin rejoignent des touches de piano, trouvailles parisiennes. À Kyoto tu installes dans la galerie des rouleaux de papier de soie que tu peins à l'encre de Chine. Tu es à l'écoute, ton travail se nourrit au paysage et quand je dis paysage, j'inclus l'histoire, grande ou petite, à la géographie. Comment travailles-tu? D'où pars-tu?
J'écoute autant la ville que les personnes rencontrées et j'essaie au mieux de leur répondre d'un langage commun, celui de notre partage, celui de nos croisements. À Kyoto, il s'agissait plutôt d'une installation nommée Écriture d'algues. Les algues avec le Japon, ce n'était pas la langue de Chine, mais des pigments et des algues. D'ailleurs, il y avait aussi un petit rapport, j'avais amené un peu de Bénin là-bas, parce que c'est des collages et il y avait des... On pouvait voir à travers ça des sculptures du Bénin. J'avais aussi fait des petits livres d'otus, c'était comme un grand rouleau, en effet, accroché comme ça au plafond, qui prenait toute la salle. Mais on était plusieurs, il y avait, enfin pas dans cette salle, mais c'était une très belle exposition aussi. Et en dessous de ce rouleau, j'avais fait des petits livres lotus, c'est-à-dire avec des algues, et puis que j'appelais les livres lotus, là on est quand même au Japon. Et au Japon, il y a quand même cette tradition, ils font un cadeau tout le temps, ils sont très cadeaux. Mais ils sont plus, comment dire, l'intérieur du cadeau n'est pas très important, c'est l'extérieur. Ils te font des papiers cadeaux absolument magiques, t'oses même pas les ouvrir. Mais j'avais trouvé ça très joli. Donc, ces petits livres lotus, on pouvait les ouvrir, mais c'était pas bien évident. Et je les offrais donc au public. Et ça, ça a donné un beau mouvement. Du coup, ils étaient tous en dessous. Ils essayaient d'ouvrir et de lire. Enfin, il n'y avait rien à lire. C'était mon ressenti de la ville. Je suis quand même restée un mois à Kyoto, une ville que j'adore, qui est absolument merveilleuse. Et puis, où j'ai marché. Et comme je disais, j'ai invité Zanzakai, qui lui venait du sud. Il me semble que c'est le sud du Japon.
Zanzakai que tu avais rencontré à la Biennale
que j'ai rencontré au Bénin. Donc c'est là où on revient, où tout est... En fait, oui, les amitiés se construisent et ne peuvent pas s'effacer. Et puis après, on se retrouve et on bosse ensemble dans d'autres pays. Et c'est encore plus intéressant aussi. Enfin, c'est toujours intéressant. Et Zanzakai est venu et il me disait, c'est dingue parce que c'est toi qui me fais découvrir Kyoto, quoi. Mais j'ai tellement marché, c'est une ville très, très intéressante et très belle. Évidemment, j'étais un petit peu sur les pas de Nicolas Bouvier, sur ses chroniques japonaises. D'ailleurs, là où je dormais, j'étais juste à côté. Et j'allais au temple où il y a écrit, enfin bon, tu te racontes plein d'histoires, quoi. Mais c'est un peu ça aussi. Et oui, au Mali, j'ai été tellement surprise par ces techniques de Bogolan. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la peinture à l'huile, ça peut pas se faire au soleil. Mais j'ai détourné, en fait, à ma façon, cette technique. Voilà. Et après, les assemblages qui se sont faits au Bénin, lors de mon 7e séjour, parce que je suis quand même allée 7 fois, donc les conditions étaient de mieux en mieux. La dernière condition, j'étais comme une princesse. C'était au centre.
Au centre.
Oui, c'était invité par Dominique Zingpe, qui est le directeur, qui était le directeur, je ne sais pas s'il l'est encore. Et là, c'était, j'avais un atelier, il y avait des gens qui m'aidaient, des assistants, un soudeur. J'avais une chambre avec une ventilation. C'était magnifique, ce qui fait que je suis même pas sortie. Je travaillais jour et nuit et c'était magnifique. Et j'ai réalisé en fait tout ce que j'avais pas vraiment osé faire et puis qui se présentait pas non plus. Donc de travailler en effet avec les objets de rituel, ce travail de ferronnerie qui est artisanal et qui est magnifique et qu'ils utilisent oui pour des rituels et puis. Écoutant toutes les histoires, puis il y a le petit musée de la Récade. Tout ça, t'es dans une inspiration. Ça sort, ça pousse la nuit, c'est effrayant, quoi. Donc je bossais jour et nuit et je trouve que là j'ai fait vraiment un très beau travail. Je sais pas si j'y retournerai parce que je pourrais pas faire mieux. Mais donc voilà, c'est tout ça, c'est très très riche.
J'aimerais que tu parles un peu des auteurs qui t'accompagnent. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun, peut-être ?
Déjà, ils ont mon amour, mon appréciation, puis je les prends tout le temps. Enfin, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais je pense qu'ils doivent avoir quelque chose en commun.
Il y a des morts et des vivants ou y a
Malheureusement, il y a quelques morts. Donc, la première fois que je suis partie au Bénin, j'ai pris avec moi le manuscrit de notre ami Jean-Pierre Desnaux, que tu as lu. Et ça m'intéressait beaucoup parce que Jean-Pierre n'a pas énormément voyagé. Il n'était jamais allé en Afrique d'ailleurs, il me semble pas. De voir ces mots qu'il avait écrits, je sais dans quelles conditions à Paris. Et en fait, ça me parlait pas de Paris, ça me parlait de l'Afrique. C'était très intéressant de voir ces mots, au bord du fleuve, enfin, dans un autre paysage, c'est toujours intéressant. Que dire? Il y a toujours un livre de Didier Huberman qui est souvent dans mes valises. D'ailleurs, la première fois, j'avais l'Étoilement, qui est un livre sur Simon Ntaï. Je l'ai offert à Deagbo, qui l'a lu dans la nuit même et qui m'a fait un...
commentaire.
Un résumé de 50 pages, enfin même plus, parce qu'il est comme ça. Donc Didier Huberman, oui, qui est là, que tu peux toujours ouvrir à n'importe quelle page, n'importe où. En Géorgie, ah oui, ça c'était assez drôle, en Géorgie, j'ai pris le carnet du Lent Chemin de Joël Vernet, qui est devenu un ami et que j'ai rencontré aussi à Tbilissi. Ça, c'était assez beau. Donc, je pense que tous ces liens, c'est quand même le voyage aussi. Joël Vernet a beaucoup voyagé en Afrique, en Russie. En fait, il m'a écrit quand j'étais en Russie. C'était assez étrange. On a fait un livre pauvre. Il y avait aussi au Mali des poèmes de Joël Bastard, où j'ai appris au dernier moment aussi qu'il avait séjourné au même endroit que moi, à Badjidala. Bien avant qu'il y ait beaucoup de monde, parce que c'est devenu un peu touristique après. Et les gens d'abord l'appelaient le vieil homme qui regarde toujours le fleuve, parce que lui, il restait au bord du fleuve et il écrivait avec qui on a lié assez connaissances, enfin sans se connaître, mais par l'écriture. J'ai souvent dans mon petit sac un petit livre de Conrad Aiken, je ne sais pas comment on prononce, un Américain dont je suis très, très sensible à la poésie. Et à Moscou, je lisais Samuel Beckett. Je ne l'ai pas rencontré, comme je disais tout à l'heure, mais je trouve qu'il va très bien avec Moscou. Tout ça, ça s'improvise suivant les rencontres, les amis, les écritures. Puis le dernier livre que tu mets dans ton... Bon, à ses goûts, j'avais tous les livres que je voulais, donc j'ai tout lu. Mais en général, c'est quand même une bonne base. Hein. C'est déjà... Et puis, il y a les livres que les amis m'offrent. Bon, voilà.
Gorko. Arcane déplié, pays bombardé. Marcher à part de rue, sans équilibre de parole. Spectre nénuphar sur le pavé. Je regarde le combattu, contrasté. En dernière formule. Je reconnais un dépouillé de soupirs, usé, sur le goudron. Puis d'autres, évanouis dans les couloirs, évacués à l'inanimé. S'approcher d'une autre réalité. L'aborder étroitement. tournait, sautait du train, toute ligne agenouillée, tenaillée d'un combat sans réseau, jusqu'au pont sans direction, puis se détachait. À quel transit s'accrochait? Rencontrait quelle mer de l'immigration par centaines, milliers? La rupture. Dans le jardin, le vent des jumeaux cachés réplique de nos disparitions. Dont le miroir brumeau d'autres croisements arides sans retour, venant d'un cœur d'eau, ce bébé synonyme inhabité à ciel de lit. Très tard, un pistolet tombe, succombe un temps sans prise, sommeil de pluie. De 9h30 à 16h, la visite de la terre effaçait de si loin les tueurs. Du monde, tarderons-nous à travers les arbres? Ne sauvera rien du voyage, pendu à l'heure acquittée, résolu de la lumière. On ne demeure plus. Précipité, sigi. Du virus dilemme, malheur thématique, masqué, devenu sans verbe. Pierre et Bec, livrés au massacre, subsistaient animaux d'enfants à l'inverse. À l'affût de donner corps, à l'urgence sortie des camps, exécution condamnée, changée de nom, crématoire, certificat de décès pour s'évader. Ne plus répondre de l'état civil de ces ténèbres. Chien errant, de l'enfant faite, dans l'étendue de l'effroi jusqu'au ventre meurtri, une promenade en noir et blanc, dont acte. D'un sommeil laiteux s'appuyait, goutte à goutte, le ciel s'essouffle tout entier vers la lumière.
Pleurs d'oiseau perdu, une arme de verre pour s'enfuir. Figé dans le miroir brisé, argenté, reflet mensonger d'un comprendre, point de départ, sans sujet. À cet endroit-là, donner la parole. Se suivre, ne pas oublier par où nous sommes passés. Se perdre de vue, mais contemporaine, la voix reviendra. Ou ne pas dormir, ni passer la frontière. D'urgence, l'incertitude prend pied et rejoint l'innommable. D'urgence, l'égalité, l'enjeu, se protéger. D'urgence, affirmer le partage. Mais ils ouvrent le feu, tirent sur nos ombres mortes, assuraient son existence quotidienne. Sous les bombes, ils sont morts, parce qu'ils étaient à quelques kilomètres. Frontalement, soulever le tremblement. Rupture de l'urgence, s'en sortir, courir au soleil, oublier toute appartenance. D'urgence, la couleur, le cri, le corps. Mille morts, un mort. Les tuants tuent, les tués tuent. Esturie, raturée, irrationnel, scélérat, criminel, rationner la pensée, d'obscure vengeance, occupant, occupé, mondialisé, privatisé, criminalisé, idée qui, conflit, conglomérat, pleutres éplorés sur nos ventres repus, notre mal-être, coupé en deux, en quatre, les cheveux, prendre sa part volée du gâteau, Afrique, Asie, Irak, Palestine, Soudan, Syrie, Moyen-Orient, prendre sa part volée du gâteau. Mercenaires du pétrole, d'uranium, diamants d'or et de cacao, coton, bandes armées. Détruire, faire ses affaires, affairer, négocier, cruauté, à vendre, rentabiliser. De qui le commerce à nourrir les pillages? Part volée du gâteau, la guerre, des pays découpés. Sur le sable, sous les feuilles, les ruines, les montagnes de sang. Il n'y a plus d'urgence, ni vie, ni mort. Seul à la liberté, s'adonner. Gorko est un mot de tradition de mariage en Russie. Les invités du repas de noces doivent crier ce mot jusqu'à ce que les nouveaux époux s'embrassent. Gorko signifie amer, mais un peu aigre doux.
C'était un extrait de Gorko? Un des livres fabriqués main que tu as publié aux éditions Derrière la salle de bain, maison créée par Marie-Laure Dagua, éditrice et écrivaine, en 1995, puis, à partir de 2002, les littératures mineures, puis Weekend Poetry. Peux-tu nous parler de ces livres, de cette collaboration avec Marie-Laure Dagua?
Oui, j'ai découvert par internet ces magnifiques publications. Très beaux textes et beaucoup de poésie underground et autres, merveilleusement présentés sur un papier à caresser, on va dire. Donc elle est éditrice indépendante et elle m'a proposé un jour de publier d'abord un tout petit fragment de texte dans la collection Little Poetry qui s'appelait Tordre. Et j'étais vraiment très très heureuse de participer à ces éditions parce que c'est tellement... Ça m'a vraiment encouragée à poursuivre. En fait, elle est, à part certaines revues, elle est la première éditrice à m'avoir proposé de publier. Et c'est, ça change tout quand même quand ça part dans un petit livre, enfin, quand c'est lu par plein d'inconnus. Et puis, il y a eu d'autres textes. Il y a eu Gorko, d'ailleurs, là. Et là, je pense que Gorko, c'est littérature mineure. Il y a eu Noison, Féodora, Nosdif, aussi Des vergers comme la mer. Et Poupée. Elle fait toujours de très très belles couvertures, entre autres avec les photos de Gilles Berquet. Elle est écrivain.
Elle n'est pas à Paris.
Non, elle est à Rouen. Elle travaille à Rouen. Et je vous conseille vraiment d'aller voir son site parce que c'est très beau. Et...
des maisons d'édition qui font un travail magnifique, des tirages de tête sur du beau papier, un tirage limité, et aussi les livres pauvres, dont j'aimerais que tu nous parles. En fait, lorsqu'on te rencontre, c'est comme si un monde s'ouvre, on a l'impression de faire partie d'un club de cinq. Tu agis comme en marge et tu fais toujours des rencontres merveilleuses. Donc Daniel Levers crée en 2002 les livres pauvres, et toi tu aimes l'art des pauvres, je pense que c'est une proposition qui te parle. Donc, j'aimerais savoir pourquoi l'art est pauvre et qu'est-ce que le livre pauvre.
Ça m'amuse parce que je n'ai jamais lu le Club des Cinq.
Moi non plus, mais on dit c'est le Club des Cinq.
Si tu
sais,
dis...
C'est comme un cercle clos. Donc, il y a quelques initiés qui peuvent faire partie.
Moi, j'ai plutôt cette impression avec toi, Fabiola. Déjà, en écoutant tes émissions, tu m'as fait découvrir tant de personnes tellement intéressantes. Et j'ai plutôt l'impression que toi, tu sembles entouré d'écrivains, d'artistes, d'architectes absolument passionnants, de musiciens. Tu as tout un univers que je trouve vraiment superbe.
Donc, tu fais partie...
Merci. Quant à moi, il s'agit simplement d'enchaînement. C'est un tel ou une telle me fait rencontrer un tel, une telle. C'est des liens qui se créent au fur et à mesure. J'ai pas tellement cherché, je contacte pas tellement d'éditeurs. C'est par d'autres écrivains. C'est pareil, j'avais pas fait de rapport entre l'Arte Povera et le livre pauvre. Mais t'as raison. Dans le sens où l'œuvre n'est pas grand-chose en elle-même pour l'Arte Povera et même pour le livre. Les livres pauvres, c'est vraiment un livre pauvre. C'est un... comment dire, ça s'inscrit pas dans une démarche productiviste, ça reste très sobre et en dehors de tout commerce, c'est pas à vendre. Et ça a été initié, comme tu l'as dit, en 2002 par Daniel Levers, qui lui-même est écrivain aussi, et qui s'est inspiré en fait de certains manuscrits de René Char, avec qui il était ami. En fait, il s'agit d'un pliage, une page sur laquelle peintre et poète interviennent librement, et on se connaît pas en fait. Ce qui fait que ça fait beaucoup de rencontres aussi. Bah, c'est comme ça que j'ai rencontré Joël Vernet. Il a répondu. Parce qu'après, c'est Daniel. Moi, par exemple, je peins, je plie une page. Et puis, c'est Daniel qui se charge d'envoyer ça. Il connaît tellement de poètes. Et d'envoyer ça à un tel, qui donc...
Il aura... pense que ça peut résonner avec ton travail. Ou... Mmh. Mais c'est dans les deux sens. Il peut y avoir un poème,
oui,
mais
peut...
après...
Je ne sais pas. Moi, je ne fais que peinture. Donc oui, je pense qu'il peut y avoir les deux sens. Mais je n'ai jamais trop reçu de texte, moi... Mais peut-être, il y en a, je ne sais pas combien, c'est un nombre, parce qu'il fait ça. Hein. Et bah, c'est comme ça que j'avais travaillé aussi avec Michel Butor. Enfin, j'ai eu plein de retours. Hein, où, et c'est pareil, Michel Butor, bah, je l'ai lu bah, dans le train, comme ça devait se faire avec la modification à l'époque, quand j'étais très jeune, et j'ai laissé le livre dans le train. J'ai bien obéi, parce qu'il dit de l'abandonner dans le train. Et je pense que tout ça aussi, c'est lié à la bibliothèque, tu vois. Et tout est lié, en fait, tout est... toutes ces rencontres, et donc c'est un livre vraiment dépouillé, il y a un minimum de matière, quoi, le livre pauvre. Et puis, comme je dis, s'y ajoute l'inconnu de la rencontre entre la peinture et le texte, moi j'adore, c'est toujours une surprise quand on me les renvoie, parce qu'en fait il y en a 6 ou 4, hein, je sais, ça dépend, et il y en a 2 pour le fond de Daniel Levers, il y en a 2 qui partent au peintre, et 2 qui sont pour l'écrivain, donc. Et là, tu découvres qui a écrit... Et en général, on garde contact. On se recontacte après. Moi, il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont écrit sur ma peinture. Et moi, sur leur texte, j'ai eu un très beau texte aussi sur Odessa, justement. Incroyable. C'est Philippe Madral qui ne savait même pas que mon grand-père était d'Odessa. Enfin, qui sait rien. Personne ne sait rien de chacun.
Mais et Daniel Levers, peut-être, il sait quand même des petites choses, non?
Je ne sais pas, parce que j'ai pas trop... Tu sais, je ne parle pas trop de tout ça. Et Joël Vernet, quand j'étais en Russie, il m'a écrit parce qu'il avait répondu à un livre pauvre où il y avait une traduction d'Anna Akhmatova et qu'il avait donc travaillé. Et c'est comme ça qu'on s'est connus via le livre pauvre. Puis après, on est devenus amis. Voilà, c'est tout un ensemble. Comme toi, tu crées des liens aussi. Enfin, on crée tous des liens. Et puis, il y a un petit réseau.
Et puis, tes liens sont un peu plus mystérieux. Je ne sais pas si mystérieux, mais un peu plus... Je ne sais pas. C'est...
Moi, je trouve les tiens très mystérieux et très intéressants.
Un autre volet de ce travail de publication est ta collaboration avec Ancrage Echo, maison d'édition qui promeut la poésie et l'art, fondée par Roland Chopard, installée à Baume-les-Dames. Ta peinture est présente dans plusieurs livres. Elle accompagne des poèmes comme celui de Stieg Dagerman, Suite Birgitta, pour ne citer qu'une. J'aimerais que tu nous parles de ce travail de collaboration avec la maison d'édition, avec les poètes, et de tes livres d'artistes, écriture et peinture, déploiement, puis antonyme, et peut-être lire un texte.
Donc j'ai choisi de lire la première page du texte de Roland Chopard, donc cet éditeur poète et peintre, et donc d'un livre d'artiste en effet qu'on a fait ensemble, Déploiement. Nous sommes dans de tels troubles extérieurs que le silence si souvent, convié et apprécié, permet, par son intensité, de ne pas nous détourner de notre nécessité intérieure. Nous retrouvons les preuves salutaires, mais toujours aussi aléatoires. Seule attitude pour nous, récupérions les valeurs libératrices de l'art qui préserve de toutes ces contingences négatives qui pourraient détruire cette nécessité. Ces rencontres, c'est Armand Dupuis, en fait, écrivain-poète, qui m'avait mise déjà en relation avec Daniel Levers, les livres pauvres, et avec qui je pense avoir fait les premiers livres pauvres. Il est très, Armand est très passeur, il présente beaucoup. Il m'a donc présenté Roland Chopard, comme j'ai dit, créateur des éditions Crage Echo, et la rencontre s'est faite tout de suite par la peinture, puisqu'il est peintre. J'ai commencé donc dans la collection, parce qu'ils ont plusieurs collections. Il y a une collection qui s'appelle Écrit peindre, et ça c'était le livre de Nicolas Grégoire, un très beau livre, de très beaux textes. qui s'appelle S'effondrer sans. Et ça a fait l'objet donc de quelques tirages de tête aussi, donc augmenté d'une peinture originale. Et a été réalisé donc le livre d'artiste Déploiement, composé des textes de Roland Chopard et de quelques-unes de mes peintures originales. Il y a eu un autre livre, parce qu'en fait on en a fait plusieurs, des livres d'artistes. Il y a ce très beau livre Le sang de l'églantier, avec les textes très intenses d'Anna Karitonova, traduit du russe par Jean-Baptiste Parra. Et cette poète, je ne la connaissais pas. C'est une poète russe qui s'est suicidée malheureusement très jeune, et dont, justement, par les traductions de Jean-Baptiste Parra, que Jean-Baptiste Parra essaie de faire connaître. Et puis, il y a eu Antonyme, donc composé là, de mes textes et de peintures.
Que tu as présenté au marché de la poésie.
Oui, oui, puisque Ancrage Écho sont toujours au marché de la poésie. Et ils m'ont invité également à la publication des tirages de tête, donc de Stig Dagerman, de ce magnifique texte, Suite Birgitta, traduit du suédois par Philippe Bouquet et Claude Lemanchec. Donc c'est toujours, oui, c'est ça, c'est, là c'est différent, parce que j'apprends d'abord le texte, enfin j'apprends à le connaître, c'est une rencontre, c'est vraiment des découvertes. Et là, on fait à peu près 122 tirages sur très beau papier. Et c'est un sacré défi aussi, parce qu'il y a quand même des dimensions à suivre. C'est pas les grands formats comme je fais, c'est du très beau papier. Je peux pas trop travailler à l'huile. Là, je travaille à l'acrylique. Et je veux pas déborder sur le texte, je veux pas prendre sur le texte. Je veux que le texte continue à respirer en dehors de tout. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qui arrive. Surtout Le sang de l'églantier, qui est un texte qui m'a vraiment bouleversée. Donc là, c'est évidemment que c'est un peu rouge et noir. Et ce qui se passe, c'est que je suis complètement avec l'écrivain, même si je connais pas sur ces 22 ou exemplaires. Bon, il y en a partout par terre, ça sèche partout. Et après, il y a ce travail de pliage que Roland fait. Et c'est un très très beau papier, j'ai plus le nom du papier. Mais j'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Et ce sont donc des peintures originales. À chaque fois, il y en a deux, trois. Je crois que pour celui de Roland, il y en a au moins trois. Et puis, on est toujours ravis, quoi. Donc, ça fait plaisir. Et j'aimerais aussi parler, j'en ai parlé un peu au début, de cette publication plus récente aux éditions de l'Esté, qui a donc été créée par Hervé Bougel, quelqu'un dont je connais les publications depuis des années aussi. Encore un lien, on se connaît pas, on s'est jamais rencontré, mais on a toujours beaucoup échangé. Et en fait, il travaille à Le Tourne, et c'est pas très loin de Bordeaux. Donc, comme maintenant j'ai déménagé, on a repris contact. Et c'est toi qui m'as fait découvrir les poèmes de Raymond Carver. Et je sais pas comment ça s'est passé, j'ai dû lui en parler, ou j'avais publié ce texte qui est très beau, que tu as lu. Et du coup, il m'a dit, allez, on le fait. Et je crois que c'est son premier livre d'artiste. Parce qu'il c'est un grand passionné de l'œuvre de Raymond Carver. Voilà, et on a fait ce livre à la collection Flux.
Donc, 24
poèmes. Je me souviens plus combien il y a de tirages. Oui, à peu près, quoi.
Oui. Voilà. C'est toi qui as choisi les poèmes, vous les avez choisis ensemble?
J'avais publié ce texte, je ne sais pas où. Peut-être où je lui en ai parlé, je sais plus bien, et il m'a dit mais j'aime tellement Carver, on va le faire. Et ce texte est tellement beau, enfin c'est tellement un texte sur la peinture.
Et donc, c'est voilà. Le même texte qui est publié,
oui.
En vingt.
Ah, voilà,
je pensais que c'était plusieurs.
Non
poèmes,
non, c'est ce qu'il faut
seulement...
pour peindre.
D'accord.
Ouais, voilà. Là il y a
comprends.
Qu'une, il y a qu'une page pliée en deux.
Je ouais. Sais, je l'ai. Je te remercie. Dernièrement en avril à Émoutiers où tu t'es installé. Il y a eu la première édition des portes ouvertes des ateliers d'artistes. C'est une des raisons qui ont fait que tu t'es installé là-bas. Il y a une vie artistique et tu en as besoin. Y a-t-il des projets en cours, des projets seuls, des projets collectifs?
Je pense qu'il y a eu pas mal de rhizomes qui se sont ramifiés là-bas, à suivre, à poursuivre. Non loin des Moutiers, Gilles Deleuze venait écrire à Saint-Léonard-de-Noblat, enfin pas très loin de Saint-Léonard. Raoul Haussmann a vécu dans la région, Paul Rebérol était né à Émoutiers. Il y a d'ailleurs un très bel espace Rebérol présentant son travail. Renoir, Auguste Renoir, né à Limoges. Et il y a aussi les écrits d'Outre, rencontre littéraire initiée par l'écrivain Serge Cadrupani, qui vit aussi là-bas. Il y a Georges Guingouin, grand résistant et militant communiste. Le centre d'art d'Île-de-Vassivière, enfin, il y a de quoi faire. Et oui, comme projet, on va proposer du 27 juillet au 17 août 2024 une exposition de peinture et d'installation avec Christine Decle, Philippe Anders et Sergio Zanco, que tes auditeurs doivent connaître. Christine Decle vit et travaille dans la région, elle pose des actes et nous écrit une vraie réflexion sur tout ce que l'on nous impose et sur ce que nous pensons vivre. J'aime beaucoup son travail. Philippe Anders vit entre Emoutier et Berlin. Il explore dessin et peinture, ce qui pourrait être nommé une phénoménologie du paysage, s'inspirant de la poésie, de la nature et de la chorégraphie. Sergio Zanco, un grand ami en commun et dont tu as fait déjà 22 entretiens aussi.
On l'a retrouvé sur la poterie.
Et qui est un très grand peintre. Et ce sera dans la maison qui est en chantier.
Daphné, nous approchons de la fin de cet entretien. Je vais te poser mes deux questions. Quelle est ta responsabilité d'artiste,
d'écrivain, de poète?
Ah là, je ne sais pas du tout, désolée. Je ne sais pas quel est mon rôle déjà dans ce monde, alors en tant qu'artiste, je suis perdue.
Et les formes utiles?
L'absurde.
S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere portagli iettatura? Ma che ci avete da ridere portagli iettatura? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Se voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Almeno non ridete, o moi non riez pas. Almeno non ridete, o moi non riez pas. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort.
Voilà à la fin de cet entretien que j'aimerais clore par la lecture d'un texte que tu as choisi.
L'innommable de Samuel Beckett. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer. Il faut dire des mots tant qu'il y en a, il faut les dire, jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent. Étrange peine, étrange faute, il faut continuer. C'est peut-être déjà fait, ils m'ont déjà, peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire, ça m'étonnerait. Si elle s'ouvre, ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis. Je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer.
Merci Daphne.
Merci.
Don't.